Éducation, santé, environnement. Ça fait 10 ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
Située à la jonction de trois frontières, la ville a cumulé les symboles aujourd'hui. Démontage médiatisé des plaques de la douane, hymne à la joie chanté en trois langues, et bien sûr, l'incontournable tournoi de foot international avec les jeunes de la région. Si le sport rapproche les hommes, l'Union européenne est censée faire de même.
La scène se passe il y a un peu plus de 15 ans, en avril 2004, dans le journal télévisé de France 2. Dans la ville de Zito, à la frontière entre l'Allemagne, la République tchèque et la Pologne, on fête l'entrée de ces pays d'Europe de l'Est dans l'Union européenne. 15 ans après, la Pologne s'est affirmée comme un bon élève de l'Europe, mais un élève aujourd'hui jugé un peu trop turbulent. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous invite à embarquer avec moi, direction les bords de la Vistule.
Quinze ans après en être devenu un État membre à part entière, la Pologne est plus que jamais en faveur de l'Union européenne. 91% des Polonais approuveraient le fait que leur pays soit membre de l'Union et 85% d'entre eux seraient convaincus qu'appartenir à l'UE a un impact positif sur l'économie de leur pays.
C'est un peu le paradoxe. 91% des Polonais approuvent le fait que leur pays soit membre de l'Union européenne. Sans doute l'un des taux de soutien les plus importants de la région. Pourtant, ces mêmes Polonais s'apprêtent à reconduire au pouvoir le 13 octobre un parti qui s'est mis à dos une bonne partie des États membres, le PiS. Bienvenue dans la vision schizophrénique de l'Europe polonaise. Il y a 30 ans, le régime communiste du général Jaruzelski tombait enfin sous les coups de boutoir du syndicat Solidarnosc, emmené par l'ouvrier Lech Walesa, que l'on peut entendre ici s'exprimer devant le Congrès américain en novembre 1989, peu après la tenue d'élections libres en Pologne. Moi, l'ouvrier de Gdansk, qui ai passé une grande partie de ma vie avec les autres membres du mouvement Solidarnosc au service de cette idée, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Un discours passé à la postérité. Mais Narut, nous, le peuple. Pour les Échos week-end, Isabelle Lesniak s'est rendue sur des terres qu'elle connaît bien, à Varsovie, à quelques semaines des élections. Une ville qui a beaucoup changé depuis son enfance.
C'est même presque une ville méconnaissable. Moi, j'y ai vécu il y a 27 ans et c'est vrai qu'on n'a plus du tout les repères qu'on avait à l'époque. À l'époque, c'était donc une ville pas très jolie avec un monument historique qui dominait la skyline. C'était le Palais de la Culture qui est un cadeau de Staline à la municipalité amie dans les années 50. Et donc, il y avait un peu ça et des bazars de rue un peu partout. Des gens qui venaient vendre leurs champignons, les fruits des bois au pied du Palais de la Culture. Donc ça n'existe plus du tout. Ce Palais de la Culture, il est un peu noyé dans des gratte-ciel qui ont vraiment poussé comme des champignons un peu partout. C'est pas forcément très joli. Il y en a qui font un peu Las Vegas. Enfin, on n'a pas pris forcément les meilleurs architectes. Ça commence. Il y a maintenant un peu plus de demandes de buildings un peu plus beaux, un peu plus des prouesses architecturales. Donc il y en a notamment deux qui se dégagent. Il y en a un qui est en fait déjà construit et c'est donc Daniel Libeskind, celui qui a fait donc le musée juif à Berlin, qui a créé un immeuble de luxe avec des appartements, notamment celui de la star du football Lewandowski qui habite là. Donc ça c'est très joli, c'est juste à côté du Palais de la Culture. Et il y a un immeuble de Norman Foster qui est en construction et qui sera donc le plus haut de l'Union européenne. Ils aiment bien, ils sont comme les Américains, ils aiment bien dire que ce sera le plus haut. Et donc, il va avoir plus de 300 mètres. Et donc, ça va modifier aussi encore plus le paysage urbain.
L'image industrielle aussi de la ville a changé. en tout cas du pays, du moins à Varsovie, qui se donne des airs de Silicon Valley.
Oui, alors c'est très frappant, notamment beaucoup de jeunes gens m'ont dit que c'est vrai qu'il y a 30 ans, le rêve d'un jeune diplômé qui parlait des langues, qui était bien formé, c'était de travailler pour une firme multinationale. Les firmes multinationales sont venues en masse, les Danone et autres, après la chute du communisme. Maintenant, c'est vraiment de créer sa start-up. Donc les conditions sont assez réunies. Bon, les Polonais ont toujours été super débrouillards, enfin c'est un peuple d'entrepreneurs, mais évidemment sous le communisme, ils ne pouvaient pas trop exprimer leur créativité. Maintenant, il y a beaucoup de fonds européens qui les aident. Il y a beaucoup d'incubateurs, de pépinières. Enfin, on en compte 362 dans le pays, donc ce n'est pas seulement à Varsovie. Certains sont publics, financés par les fonds structurels de l'Union européenne, mais il y a aussi beaucoup d'aides privées et d'endroits qui sont créés par Google, des centres de recherche et de développement de Samsung, d'IBM. Donc il y a quand même beaucoup de moyens finalement d'être hébergé et d'obtenir un soutien. Pour les fonds et le financement finalement en très early stage, enfin pour se lancer, il y a ce qu'il faut. Il y a des fonds polonais qui peuvent aider. C'est un peu plus compliqué quand on veut aller à l'international, puisque là, il faudrait des investisseurs étrangers, ils ne sont pas forcément là. Mais c'est quand même assez intéressant, parce qu'il y a deux licornes en Pologne, déjà, et qui sont sur un modèle, chacune sur son modèle, et très antinomique. Donc une, ça s'appelle Allegro, c'est un Amazon polonais, d'ailleurs fondé par un ancien d'Amazon qui est un Français, et donc qui s'adresse vraiment au marché national de presque 40 millions d'habitants. Donc ça peut être un modèle de développement de juste se contenter du marché polonais. Et l'autre, c'est les jeux, un éditeur de jeux vidéo, donc CD Projekt, qui est, lui, pour le coup, le monde et son terrain de jeux, avec notamment une série sur Netflix en préparation.
Une série tirée d'un jeu vidéo à succès, The Witcher, lui-même tiré de l'œuvre de l'écrivain polonais Andrzej Sapkowski.
En faillite vers la fin du communisme, la Pologne est en croissance ininterrompue depuis 1992. En 25 ans, son PIB a plus que doublé et ses exportations ont été multipliées par 15.
La Pologne, c'est le voisin de l'Allemagne. Il y a un moment où l'économie européenne souffre et est un peu souffreteuse, on va dire même depuis 2012 et la crise de la dette souveraine. En revanche, la Pologne a l'air de se porter comme un charme.
Oui, alors c'est vraiment l'exception en Europe. Donc depuis 15 années d'intégration dans l'Union européenne, la croissance n'a jamais failli. Donc même en 2008, ils étaient en croissance et ça continue. Donc l'an dernier, la croissance était de plus de 5%, cette année encore 4%. Et donc ils sont très contents de pouvoir dire que l'Allemagne va sans doute avoir une récession alors qu'eux caracolent encore à 4%. C'est un peu court-termiste parce qu'évidemment c'est leur plus gros partenaire commercial en Europe et donc ils pourraient être rattrapés. Bon, jusque-là, le fait qu'ils n'aient pas adopté l'euro et qu'ils aient gardé le zloty, ils y sont très attachés et ils trouvent donc que c'est une façon de se prémunir contre la contamination européenne. Mais est-ce que ça va durer longtemps? Il y a quand même des canaux de transmission qui vont un jour les rattraper.
Il faudra voir hein, si l'Allemagne se met à éternuer. Est-ce que la Pologne ne va pas s'enrhumer? La Pologne a adhéré à l'Union européenne en 2004. On peut dire que ça a été l'un des grands bénéficiaires de cette ouverture à l'Europe?
Oui, tout à fait. Alors, donc, le PIB par habitant, depuis l'adhésion, a progressé de 81%. Aujourd'hui, finalement, la Pologne est à 70% de la moyenne des 28 membres de l'Union européenne. Donc, c'est un rattrapage en revenus et en parité de pouvoir d'achat. Donc, c'est un rattrapage extraordinaire. Et c'est vrai que les effets de l'Europe à Varsovie se voient partout. Donc, Varsovie a sans doute encore plus bénéficié, la grande région de Varsovie, que les autres des fonds structurels. On calcule qu'elle a gagné 4,5 milliards d'euros de fonds structurels, même un petit peu avant l'adhésion. Enfin, il y avait déjà des fonds dont elle pouvait bénéficier. Et partout en ville, en fait, il y a des petits tableaux qui montrent les projets qui ont été réalisés et à quelle hauteur par l'argent européen. Donc, les Polonais, enfin, en tout cas les Varsoviens, savent très bien ce qu'ils doivent à l'Europe parce que leur piste cyclable, ils voient que c'est 75% de financement européen. La deuxième ligne du métro, pareil. Un un château qui a été restauré ou un musée qui a été rénové, c'est aussi en grande partie avec l'argent de l'Union européenne, et donc ils en voient le montant. Et c'est vrai que c'est très étonnant de voir comment le panorama urbain a totalement changé grâce à l'argent de l'Europe, les pistes cyclables, l'aménagement des berges, les tramways, les bus électriques, et même je connaissais très bien quand j'étais petite le zoo de Praga, qui était vraiment un zoo très triste, et même le zoo de Praga a été rénové grâce à l'Europe.
Alors Varsovie n'est pas la Pologne, hein, comme Paris n'est pas que la France. 15 ans après son adhésion à l'Union européenne, on a l'impression que les Polonais ont une vision encore ambivalente de l'Europe.
Alors, ils ont bien bénéficié donc des fonds structurels, et ça, ils s'en rendent compte. Donc, dans les sondages, selon la question précise qui leur est posée, il y a entre 80 et 90% de gens qui ont une vision positive de l'Union européenne grâce à toutes ces aides économiques. Au plan des valeurs, c'est plus compliqué, puisque, en fait, la Pologne a reconquis son indépendance assez récemment, après avoir eu 123 ans d'un occupant étranger, et donc ils sont très 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 patriotes, très soucieux de défendre leur identité, et l'Europe est quelquefois vécue comme cet agent d'ingérence qui les empêche de développer ce qu'on appelle l'exceptionnalisme polonais, c'est-à-dire c'est le pays phare de la chrétienté qui défend des valeurs de la famille unie, évidemment la communauté LGBT est très stigmatisée, et donc ils ont l'impression, et plutôt à tort, que l'Union européenne, pour eux, ça va leur changer la vie en matière d'avortement, d'acceptation des étrangers, d'acceptation de la communauté gay, ce qui n'est pas du tout la vraie pomme de discorde.
Vous dites 123 ans d'occupation. Il y a eu du monde avant les Russes ?
Oui, les Autrichiens, les Allemands, enfin, toute l'histoire du pays était vraiment l'histoire d'une reconquête. Et donc, c'est très, très intéressant, par exemple, en ce moment, au cinéma à Varsovie, à côté des blockbusters Ad Astra et autres films étrangers, les films qui sortent actuellement, les films polonais, c'est vraiment des films sur l'histoire et sur notamment Piłsudski, qui était le héros de l'indépendance. Et donc, c'est ce qui mobilise les foules au cinéma en ce moment.
Ce qui est venu un peu gâcher la fête, ces échanges à distance entre la France et la Pologne, Emmanuel Macron ayant directement ciblé ce pays comme ne prenant pas part notamment aux engagements de baisse sur les émissions de carbone au niveau européen.
La Pologne, très friande de charbon, est accusée de bloquer les efforts de l'Union européenne en faveur de l'environnement. Emmanuel Macron avait d'ailleurs appelé récemment les jeunes à manifester en Pologne afin qu'ils viennent l'aider à faire bouger ceux qu'ils n'arrivent pas à faire évoluer. Ce n'est pas la première passe d'armes entre Paris et Varsovie. Il y a 2 ans déjà, le président Macron s'était agacé sur la question des travailleurs détachés.
La Pologne ne saurait être aujourd'hui le pays qui donne son sens ou sa direction à l'Europe. C'est aujourd'hui un pays qui décide d'aller à l'encontre des intérêts européens sur de nombreux sujets. Et je vous rappelle encore quelques semaines les initiatives prises par la Commission pour déclencher une procédure de sanction.
Isabelle, il y a un problème de compatibilité aujourd'hui entre la France et le parti au pouvoir, le PiS, le parti ultra-conservateur droit et justice.
Oui, le PiS trouve que Emmanuel Macron et les Français sont très arrogants, et donc ça revient assez souvent dans la conversation. Il y avait une anecdote célèbre, donc en 2016, il y avait une sortie qui avait été très commentée d'un leader du PiS, un parlementaire en vue qui s'appelle Bartosz Kownacki, c'est un proche de Jarosław Kaczynski, et il avait eu cette phrase: ces Français à qui nous avons appris à manger avec une fourchette, et donc qui doivent pas la ramener maintenant. Alors il faisait référence à un moment historique amusant, à une anecdote très ancienne. Il faisait référence à Henri III, en fait, le dernier roi de la dynastie des Valois, qui était un roi de Pologne. Il avait fui la Pologne en 1574 pour la France avec une fourchette qu'il avait découverte à Venise. Et donc, il avait adopté, parce que ça lui permettait de manger moins salement, de ne pas salir sa fraise. Et donc, voilà, c'est un Polonais qui est arrivé en France avec sa fourchette. Et donc, c'est une réécriture de l'histoire qui allait bien dans les intérêts du PiS.
Au début du XXIe siècle, on a beaucoup parlé du plombier polonais, comme le rappelle ce programme d'Arte.
Le plombier polonais est un personnage mythique entré au panthéon de la xénophobie tricolore en 2005, peu avant le célèbre référendum sur le traité de Maastricht. Il est devenu symbole du travailleur low-cost qui allait déferler de l'Europe de l'Est sur l'Europe prospère.
Mais ce qui m'a surpris dans votre reportage, Isabelle, c'est qu'en Pologne, on parle plus aujourd'hui des ouvriers ukrainiens sans que cela ne semble poser de problème.
Oui, alors c'est vrai que le plombier polonais a été un peu remplacé par plutôt l'ouvrier du BTP ou l'ouvrier de la restauration ukrainien. Bon, le chômage est très bas, donc pour les métiers, les low-cost jobs, c'est difficile évidemment de recruter. Donc il y a 2 millions d'Ukrainiens qui sont arrivés en Pologne. Il y a 4 ans, ils étaient assez mal vécus. Enfin, c'était un peu l'ennemi des valeurs polonaises aux yeux du PiS et pendant la campagne électorale. Là, ils ont été remplacés donc par la communauté LGBT comme ennemi du peuple polonais. Et c'est vrai que, en fait, c'est une main-d'œuvre qui travaille beaucoup. Les Polonais sont très sensibles, c'est un peuple de travailleurs. Donc, quand ils voient que les gens mettent du cœur à l'ouvrage, finalement, ils s'intègrent mieux. Donc, c'est une polémique qui a disparu. Il y a aussi des gens qui sont encore plus visibles comme étrangers. C'est les vendeurs et les coursiers de Uber Eats. C'est des ressortissants d'Inde et du Bangladesh. Et on a l'impression qu'eux, maintenant, s'intègrent assez bien dans le paysage, qui était un paysage quand même assez uniforme pendant le communisme. Il n'y avait pas beaucoup d'étrangers, et surtout pas d'étrangers de couleur. Et donc, c'est vrai que l'ouverture au monde s'est traduite aussi par des étrangers visibles dans les rues de Varsovie.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, avant ces élections, que la Pologne est un pays divisé ?
Plus que jamais. Enfin, moi, je trouve que la Pologne n'a jamais été aussi divisée depuis 1989. Donc, quand il y avait évidemment les divisions historiques entre les ex-communistes et les gens de Solidarność, de Solidarité. On retrouve ces pommes de discorde dans les familles. Enfin, il n'y a pas une famille où finalement on peut parler de politique à table. Chacun regarde ses chaînes télévisées. La télévision publique est devenue irrégardable tellement c'est la télévision du PiS. Il y a une chaîne d'opposition mais qui est aussi très caricaturale. Donc on ne va plus au même spectacle, on ne regarde plus les mêmes télés, on ne parle plus de politique à table. Donc c'est vraiment un panorama de division extrême. Les plus optimistes disent que c'est un phénomène assez naturel d'alternance, que c'est ça la démocratie, c'est-à-dire qu'il y a eu des années avec le parti libéral au pouvoir et que finalement avec un capitalisme assez échevelé et que c'est normal que maintenant on mette un coup de balancier plus social avec le PiS et que c'est le jeu de la démocratie et que ça passera. On a l'impression quand même que les crispations vont durer.
Est-ce que ces crispations, cette division de la société vaut aussi pour l'appartenance à l'Union européenne ?
Non, alors là, s'il y a une chose qui peut les réunir, c'est que personne ne veut en sortir. À un moment donné, il y a eu dans les médias des rumeurs, des articles sur le Polexit, et ça a été vite balayé, puisque même le PiS au pouvoir ne remet pas fondamentalement en cause l'appartenance à l'Union européenne.
Avec ses 38 millions d'habitants, la Pologne s'affiche comme le 6e pays le plus peuplé de l'Union européenne. Il doit encore répondre à certains défis, en particulier la modernisation d'une économie encore très tournée vers les mines, l'acier ou l'agriculture, mais aussi son déficit démographique qui a vu plus de 2 millions de jeunes Polonais tenter l'aventure à l'étranger. Quoi qu'il en soit, la Pologne a parfaitement réussi son intégration européenne, d'un point de vue certes plus économique que politique, et sachez enfin qu'en 20 participations, ils n'ont jamais gagné à l'Eurovision. On se demande bien pourquoi. Remarquez, en matière d'Eurovision, il faut dire que la France est mal placée pour donner des leçons.
On pose nos sacs sur les banquettes et on salue le président. On se débouche une petite planquette et on se rince les dents.
La Story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Isabelle Lesniak pour ce tour d'horizon de la Pologne façon « Je t'aime, moi non plus ». L'émission a été réalisée par Nicolas John, chargé de production Michele Varnet. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de La Story sur Deezer, Spotify, Castbox, Apple Podcast et sur la plupart des plateformes de téléchargement. Pour l'actu en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.